Salut à tous et bienvenue dans Carrefour du Monde, l'émission de l'actualité internationale vue de manière décalée. Vous pouvez écouter Carrefour du Monde à Montréal le lundi à 10h sur CISM 89.3 FM, ainsi qu'à Bruxelles sur Radio Campus et Radio Panique, sans oublier le site internet carrefourdumonde.org. Cette nouvelle édition de Carrefour du Monde est un numéro spécial d'une heure, une édition spéciale consacrée à la probable guerre états-unienne en Irak. Pendant une heure donc, vous écouterez les témoignages, les analyses et les réactions de nos invités et de nos correspondants à New York et à Madrid. En effet, depuis des mois, l'ensemble de la presse traditionnelle se concentre sur cette crise irakienne. Néanmoins, malgré cette hyper-médiatisation, beaucoup d'aspects fondamentaux du conflit à venir sont ignorés par les médias mainstream. C'est pour cette raison que nous avons décidé de revenir sur ce bras de fer qui oppose Washington à Bagdad depuis des mois et même depuis des années. Au programme donc, nous évoquerons le dossier des opposants irakiens en compagnie de Wahtab al-Sadi du Forum pour la démocratie en Irak. Michel Warshavski, pour sa part, militant israélien pour la paix au Proche-Orient, analysera les conséquences de cette agression américaine dans une région déjà très instable. Et puis le concept de guerre préventive avancé par le gouvernement Bush est-il valable aux yeux du droit international? Ce n'est pas le cas selon Pierre Klein du Centre de droit international à Bruxelles. Et puis John MacArthur, l'éditeur de la revue new-yorkaise Harper Magazine, parlera de la grande manip des médias américains depuis le 11 septembre 2001. Tous ces aspects seront développés dans cette spéciale Irak de Carrefour du Monde. Mais commençons d'abord avec les États-Unis. Quoi qu'il en soit, et malgré l'opposition de nombreux pays, et malgré la manif monde du 15 février dernier, le gouvernement Bush veut attaquer l'Irak et rien ne semble freiner le rouleau compresseur américain. Il s'agit de la chronique d'une guerre annoncée. André Michel Essungu au Conseil de sécurité à New York.
Une guerre sans raison convaincante, voulue par une superpuissance sûre de son rang et ignorante du refus de la majorité. La deuxième guerre du Golfe inaugure une ère nouvelle, celle où un État s'octroie le privilège de s'attaquer à un ennemi potentiel, envers et contre tous. Pour ceux qui s'en émeuvent, cette guerre est un vieux projet. Ni la prétendue lutte contre le terrorisme, ni les enjeux de la sécurité internationale ou nationale américaine n'en sont les mobiles suffisants. L'actuelle administration, nourrie de la certitude inébranlable sur le destin messianique de leur société, convaincu de la nécessité de sa mission qui allie à la fois la compassion au peuple qui souffre et leur soumission aux intérêts américains, n'a pas découvert sur le tard les bienfaits de cette guerre. Les attentats du 11 septembre ont permis, ont facilité à George Bush et à son entourage la mise en œuvre d'une théorie du monde où l'Amérique, unique puissance globale, s'assure la mainmise sur les ressources qui comptent dans le monde, avec ou sans l'aval de ses vassaux occidentaux, en combattant les États voyous d'Orient, d'Asie ou d'Afrique notamment. L'actuelle guerre en Irak est une étape de la mise en œuvre d'un projet dangereux au sein duquel l'Amérique se rêve impériale. L'armée, bien sûr, les médias, la finance, les hommes d'affaires, la classe politique américaine, bref, l'élite de la plus vieille démocratie du monde partage plus ou moins ce projet. L'élite, et en dépit de son scepticisme, la population également, saoule d'appel au patriotisme, objet d'un matraquage grossier et incessant sur les thèmes récurrents de la bonne et fière Amérique, détestée de tous, qui se doit de continuer sa lutte contre le mal, car sans elle, le monde ne serait que désordre. En couvrant ainsi tous les registres de l'émotion, de la peur à la fierté, alliant le mensonge, l'amnésie et le chantage, Washington a réussi au plan local ce que le monde lui refuse, faire passer pour acceptable et inévitable une agression contre non pas seulement un tyran sanguinaire, mais aussi un peuple martyr qui n'en demande pas tant. Ce qu'il y a d'exceptionnel et de fascinant dans le projet américain, c'est son caractère public et avoué. Par George Bush, il y a un an, confessant devant des journalistes que son ambition est de déloger Saddam Hussein. Par divers officiels américains aussi, qui de manière régulière planchent sur la gestion de l'après-Saddam et le partage du butin pétrolier régional. Exceptionnel et fascinant également est le mépris américain pour les Nations Unies, utile à leurs yeux parce que docile, car autrement l'organisation passe pour un empêcheur de tourner en rond. La guerre américaine en Irak est donc à cet égard une guerre contre tous. La différence, il est vrai, n'existe que pour ces puissances moyenne, hier partenaire et désormais prié de rentrer dans les rangs. Pour les peuples d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique, dépossédés de leur destin et inscrits au registre des agressions en tout genre, il n'y a malheureusement pas en ces temps troubles rien de nouveau sous le soleil de leur douloureuse souffrance. Des souffrances dont elles sont diversement redevables à l'Amérique, Amérique terre de liberté, qui ailleurs a si souvent porté le feu. Un paradoxe de l'humanité sans doute. André Michel Essungu, à New York pour Carrefour du Monde.
Dans l'ombre des États-Unis et de la Grande-Bretagne, l'Espagne est l'autre grand soutien européen à un conflit en Irak. Le premier ministre espagnol, José María Aznar, s'est rendu dans le ranch de Bush au Texas pour appuyer les positions de la Maison-Blanche. Pour les 80% d'Espagnols opposés à la guerre, les limites de la décence sont atteintes. Et chez les 20% qui restent, le doute s'installe. Le pouvoir serait-il monté à la tête du premier ministre espagnol? À Madrid, Emmanuel Stenz.
Quelle est exactement la position défendue par l'Espagne au Conseil de sécurité de l'ONU? Hormis les bonnes grâces américaines, qu'est-ce qu'un soutien à la guerre apporte à l'Espagne? Pourquoi la guerre? Il y a 3 mois à peine, le gouvernement espagnol négociait encore des contrats pétroliers avec Saddam Hussein. Pourquoi autant d'incohérences? Pourquoi s'obstiner si cette politique n'est même pas populaire? Pourquoi l'alliance avec l'Amérique pèse plus dans la balance que la concordance européenne? Pourquoi Aznar est-il devenu si susceptible, si colérique, si absolutiste? Mais au fond, quelle est la position de l'Espagne déjà? Dans la tête du commentateur, mais aussi dans la tête du citoyen, toutes ces questions tourbillonnent inlassablement. Dans la bouche du parlementaire, elles se bousculent devant un micro coupé. Sans que personne ne parvienne à dire laquelle de ces questions est la plus urgente, la plus déroutante, la plus fondamentale. À la marée noire sur les plages, succède la marée humaine dans les rues. Et pendant ce temps, notre Premier ministre ne pense plus qu'à une marée de sang, celui des Irakiens. Comment stopper cette folie? L'Espagnol, si rongé d'ordinaire, se remet alors à croire dans les vertus de la protestation. Mais pourquoi les membres du parti au pouvoir défilent-ils avec moi dans les rues? Se demande-t-il interloqué. Ne sont-ils pas au pouvoir? Même ceux-là ne sont plus d'accord avec leur chef. Aznar tente alors de rameuter les troupes en se montrant mielleux. Après tout, lui aussi est pour la paix. Qui n'est pas pour la paix? Raisonnement scabreux d'un vaniteux obtus qui prend les gens pour des idiots, eux qui refusent de comprendre que le seul chemin qui mène à la paix passe par la guerre. L'argument ne prend pas, malheureusement pour lui. Alors Aznar n'a plus qu'un visage à opposer aux critiques, celui d'un personnage hautain, bourré de rancœur. 3 millions d'Espagnols manifestent contre la guerre. Et alors, le pouvoir ne se gagne pas dans les rues, mais bien aux urnes, éructe le Premier ministre. Une façon de confondre légitimité avec impunité. Une façon de montrer toute sa considération pour l'électeur qui se cache derrière chaque vote. Le compte est bon, majorité absolue, et maintenant on fait ce que je veux, et si l'Espagne devient le 51e État des États-Unis, c'est parce qu'on a voté pour moi. D'après Aznar, le Parlement lui-même a perdu de son charme. Qui réclame des explications récolte le mépris. Un week-end chez Bush, dans son ranch, le voilà le paradis. Lancer des cris de guerre dans la campagne texane et donner des conférences de presse en espagnol avec un accent américain. Hemos trabajado toda la noche. L'Espagne assiste, consternée, à la pantalonnade. Aznar a beau censurer les médias, il assure lui-même la caricature. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Les Espagnols commencent à le rejeter, à ne plus pouvoir le supporter. Alors Aznar se crispe et se radicalise. Lorsque Jacques Chirac trébuche sur son nom et l'appelle María José, José María se fâche et ordonne aux médias de taire l'anecdote. Mais lorsque Jeb Bush, le frère du président, trébuche sur sa fonction et sur la monarchie espagnole en l'appelant président de la République espagnole, Aznar, tout royaliste qu'il est, jubile. Après tout, cela démontre qu'aux yeux des autres, et les yeux d'un Bush sont chers à son cœur, il est au-dessus de tout le monde et c'est lui qui règne en seul maître sur son domaine. Les plages seront noires, les oiseaux mazoutés, les médias manipulés et vous tuerez en mon nom. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce petit dictateur? La voilà peut-être la question fondamentale que se posent les Espagnols. En attendant, la guerre en Irak risque de se faire en leur nom. Emmanuel Stelz à Madrid pour Carrefour du Monde.
J'étais à la faculté avec... On était ensemble avec Saddam Hussein, qui était à la même faculté que moi, et on a eu des bagarres. On était dans deux parties très opposées, et donc j'ai été arrêté par des bassistes, pas des policiers, mais par des bassistes le matin de coup d'État de 68.
Au moment où le flou prévaut sur l'avenir de l'Irak, une partie de l'opposition irakienne craint l'instauration d'un régime militaire. C'est le cas de Wahtab al-Sadi, président du Forum irakien et président du Centre d'études sur l'Irak. Al-Sadi fait partie de ces opposants irakiens qui rejettent tout autant Saddam Hussein que le projet d'intervention américaine. Cet ancien camarade de Saddam Hussein est l'un des premiers prisonniers politiques du pays. C'est pour cette raison qu'il s'est exilé en France en 1968. Wahtab al-Sadi au micro d'Olivier Témence.
J'étais le premier prisonnier politique de ce régime. J'ai été arrêté même avant le Premier ministre parce que, si vous voulez, j'étais à la faculté avec... on était ensemble avec Saddam Hussein, qui était à la même faculté que moi, et on a eu des bagarres. On était dans deux parties très opposées, Et donc, j'ai été arrêté par des bassistes, pas des policiers, mais par des bassistes le matin de coup d'État de 68.
On dit pourtant souvent que le parti basse, c'était pas si grave par rapport au reste de ce qu'il y avait au Moyen-Orient. C'est un parti qui, au début de son règne, a propagé l'alphabétisation, les droits des femmes, etc. etc. Est-ce que vous pouvez confirmer ou contredire cette image qu'on a souvent ?
L'image en Occident de parti basse, en fait, a été fabriquée souvent par des journalistes qui sont soit proche de régime, soit proche des gouvernements occidentaux qui tantôt proche de régime, tantôt très opposé au régime. Donc c'est des images très très loin de la réalité. Le pays, l'Irak, c'est un pays moderne, donc l'analphabétisation était en marche avant l'arrivée au pouvoir de Parti Basse. Les femmes avaient des droits. Il y avait un mouvement de libération de la femme bien avant l'arrivée de Basse. Et au début, il est vrai que le Parti Basse, il avait des alliances avec l'Union soviétique et aux États-Unis, avec les États-Unis en même temps, avec la France. Donc, il favorisait un régime social assez moderne. Et c'est naturel parce qu'il y avait beaucoup de les revenus pétroliers ont augmenté d'une façon énorme entre l'arrivée de Parti Basse et 1973. Et donc ça a permis un développement rapide de la société irakienne. Mais ce n'est pas parce que l'idéologie de ce parti permettait ça, mais c'est parce que c'est une évolution normale d'une société qui était déjà moderne avant l'arrivée de Parti Basse et qui avait des revenus très importants. C'est un pays riche sur tous les plans, agricole, il y a l'eau, il y a la terre, il y a des... Et je vais vous dire une chose, par exemple, avant la guerre contre l'Iran, c'est-à-dire en 1980, l'Irak possédait le pourcentage le plus élevé parmi les pays, ce qu'on appelle sous-développés, en matière grise, comme on dit. C'est-à-dire des gens qui avaient le niveau de licence et baccalauréat.
On entend clairement que vous n'êtes pas un ami de Saddam Hussein, mais pour autant, la libération, entre guillemets, prochaine par les États-Unis ne vous réjouit pas non plus. Vous êtes un homme de gauche. Votre situation doit être assez délicate. Vous êtes entre le marteau et l'enclume, presque.
Oui, nous sommes opposés au régime à ce régime depuis son arrivée. Ce régime a mené le pays dans des catastrophes énormes. La guerre contre l'Iran, l'agression contre l'Iran sans raison, ce que pour servir les intérêts des États-Unis. Les guerres intérieures, on a vu c'est que ce régime a bombardé même ses propres populations par des gaz chimiques. Il y a des exécutions, il y a des milliers d'opposants qui ont disparu et qui sont morts sur la torture. Ce régime a emmené l'Irak dans une situation catastrophique en envahissant le Koweït et en maintenant ses troupes au Koweït malgré les menaces de guerre. Et l'Irak a été dévasté par la guerre et par l'embargo, qui est un crime contre l'humanité, comme tout un chacun le sait. Mais maintenant, l'Irak est menacé dans son existence même, et par une guerre destructrice menée par George Bush, qui ne cherche ni à imposer la démocratie, ni à libérer le peuple irakien. Il y a des intérêts, surtout des intérêts pétroliers et des intérêts stratégiques qui sont clairement définis par l'administration Bush. Maintenir, dominer le pétrole et les ressources pétrolières physiquement pour garantir l'augmentation de production et la vente de cette production de pétrole aux États-Unis, qui est l'objectif principal de cette guerre, et aussi les autres objectifs stratégiques, comme affaiblir l'Europe, comme dominer encore plus les pays de la région, comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, qui sont des alliés, mais pour leur ôter toute volonté de d'autonomie et également se rapprocher de la zone de la mer Caspienne. Tout ça, c'est un ensemble d'objectifs que les États-Unis cherchent. Et donc, la démocratie en Irak ne fait pas partie des objectifs des Américains.
Watab al-Sadi du Forum irakien était interrogé par Olivier Témans. Nous remercions justement l'émission Alter Echo pour sa précieuse collaboration.
Aujourd'hui, la politique de Bush est différente. Il n'est pas du tout intéressé par une coalition avec les États arabes. Il laisse le choix à tout le monde en disant « vous êtes avec nous, contre nous. Si vous êtes contre nous, on vous cogne aussi ».
Michel Warchavski est militant pour la paix au Proche-Orient depuis 1968. Il est le président du Centre d'information alternative de Jérusalem. C'est l'auteur du livre « Israël-Palestine, le défi binational » et de l'ouvrage « Sur la frontière ». Michel Warchavski revient en compagnie d'Olivier Témans sur les influences que risque de jouer une éventuelle guerre en Irak sur le conflit israélo-palestinien.
Aujourd'hui, la politique de Bush est différente. Il laisse le choix à tout le monde en disant « vous êtes avec nous, contre nous. Si vous êtes contre nous, on vous cogne aussi ». Ça, c'est la nouvelle politique américaine. Une politique qui ne craint pas la déstabilisation. Au contraire, qui la recherche, comme l'a écrit très bien Mallet il y a quelques jours dans Le Monde, Robert Mallet, qui était l'ancien conseiller de Clinton. C'est une politique de déstabilisation et qui répond à la déstabilisation par la guerre, par les frappes, par l'agression. Israël voudrait participer à cette guerre. Je ne suis pas certain que les Américains aient intérêt à ce qu'il y ait une participation directe. Ce qui me préoccupe plus particulièrement et qui préoccupe les Palestiniens et cette minorité d'Israéliens qui se bat contre l'occupation, c'est l'utilisation que va faire, et ce n'est pas caché, c'est dit tout à fait publiquement, que va faire le gouvernement israélien, utiliser l'écran de fumée de la guerre contre l'Irak pour mener à bien des plans qu'ils ne peuvent pas faire à froid, entre autres une vaste opération d'épuration ethnique et un nettoyage d'une partie des territoires occupés ou de l'ensemble des territoires occupés de sa population palestinienne. Ça, c'est un risque très réel, très immédiat, et c'est la dimension israélienne qui doit plus particulièrement nous préoccuper dans cette guerre.
Vous parliez de certaines rumeurs selon laquelle le gouvernement israélien envisagerait peut-être une solution irakienne pour les territoires occupés. En quoi consiste-t-elle ?
Alors il y a plusieurs plans israéliens, je pense qu'ils verront selon la situation ce qui peut être mis en œuvre. Le plan maximum, c'est un déplacement massif de population, un nettoyage de la Cisjordanie vers l'Irak à travers la Jordanie. Une déstabilisation de l'Irak permettrait de résoudre, entre guillemets, la question palestinienne en Irak. C'est le choix et c'est d'une partie de l'état-major et d'une partie des politiques israéliens. Je dirais que c'est le plan maximum. Le plan minimum, ce serait nettoyer tout ce qu'on appelle les zones C, c'est-à-dire les zones qu'Israël revendique pour la poursuite de sa politique de colonisation en Cisjordanie, et concentrer la population arabe dans les cantons qui existent, dans les zones autonomes palestiniennes, par rapport auxquelles Sharon n'a aucune objection de les reconnaître comme un État palestinien. Ce seraient des États fictifs, ce seraient des Bantoustans, dans le plan Sharon, complètement contrôlés et dominés par Israël, mais dans lesquels les Palestiniens pourraient gérer leur vie quotidienne. Et le reste du territoire, ce qui ferait quand même près de la moitié ou plus de la moitié de la Cisjordanie, serait un territoire vide d'Arabes et ouvert à la colonisation, à la poursuite de la colonisation.
Vous avez aussi exprimé vos craintes de l'utilisation de l'arme nucléaire dans ce conflit, que ce soit soit par les États-Unis, soit peut-être même par Israël aussi.
Je crois que ce qu'il y a de plus dangereux aujourd'hui, et c'est valable pour M. Bush comme pour M. Sharon, c'est le fait que le nucléaire n'est plus un tabou. Bush a dit, on envisage l'utilisation d'un armement nucléaire tactique, localisé, etc. Et Sharon a dit de la même chose. Dans la mesure où Israël était attaqué par l'Irak, il est vraisemblable, a-t-il dit, que l'armée israélienne, il n'est pas exclu que l'armée israélienne, que l'État d'Israël utilise sa force de frappe nucléaire. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'il reconnaissait ouvertement qu'il y avait une option nucléaire, ce que tout le monde sait, mais qui était niée jusqu'à présent par Israël. Je ne suis pas certain, je ne pense pas que ce soit l'option la plus vraisemblable, mais le seul fait que le nucléaire ne soit plus tabou Et le nucléaire, non pas comme dissuasion face à un autre nucléaire, mais le nucléaire comme un armement, comme n'importe quel autre, dans une guerre conventionnelle, doit préoccuper tous les gens sensés à travers le monde, tous les gens normaux, je dirais même pas démocratiques, les gens normaux, et créer un fort mouvement pour barrer et je dirais rentrer dans la gueule de Bush et de Sharon d'avoir osé même mentionner une option nucléaire dans l'état actuel des choses.
Justement, à propos de mouvement et d'opposition à la guerre, est-ce que vous pensez qu'il y a encore un moyen quelconque d'arrêter cette guerre ?
Je crois qu'il faut continuer les mobilisations. Février est un moment charnière ici en Europe, et c'est très important. C'était encourageant de voir près d'un million de personnes à Florence, il y a un peu plus d'un mois. Et il y a certainement une opposition, une majorité à travers le monde, une immense majorité à travers le monde, une majorité en Europe de gens qui ne veulent pas de cette guerre. Le problème, c'est que nous vivons un immense déficit de démocratie. Ce que le peuple veut, ce n'est pas forcément ce que font les politiciens. Et il faut, indépendamment des évaluations qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut arrêter encore cette guerre ou non, il faut, même s'il y a encore 5% de chance, il faut tout faire pour l'empêcher.
Et concrètement, vous avez des recettes ?
Non, il faut se mobiliser, c'est des manifestations, des pressions, des actes de désobéissance civile. Aux États-Unis, cela s'exprime, tentative chez les dockers de dire on ne participera pas à l'effort de guerre. Il faut montrer qu'il y aura un prix à payer dans les métropoles des pays impérialistes, des pays qui participeront plus ou moins activement à cette guerre, qu'ils en paieront un prix très important, et surtout, faire savoir et faire comprendre, je dis plus particulièrement en Europe, qu'il n'y aura pas d'immunité pour l'Europe. S'il y a la guerre, je pense qu'on va libérer des forces qui sont latentes aujourd'hui, à travers le monde entier, et l'Europe est peut-être un des endroits les plus vulnérables en termes de méga d'opérations terroristes de grande envergure, utilisation d'armes de terrorisme bactériologique ou autre. Les moyens, on n'a pas besoin de grands moyens pour le faire. La colère est déjà si forte dans cette provocation permanente, cette arrogance américaine et occidentale, et dans l'usage de ce concept de croisade contre l'islam, et une partie des conseillers de Bush le disent ouvertement. Bush dit non, c'est pas contre l'islam, c'est contre les extrémistes. Mais à côté de lui, il y a toute une série de fanatiques, des protestants intégristes extrêmement dangereux, qui disent non, c'est une guerre de civilisation. Dans cette guerre-là, il y aura des réactions. Et je pense que l'Europe est un des endroits les plus vulnérables à de telles formes de réactions, et risque d'une déstabilisation très grave, que ce soit par des opérations terroristes ou que ce soit par des révoltes ou une cassure encore plus grande entre l'Europe chrétienne et l'Europe musulmane. Et aujourd'hui, l'islam fait partie de l'Europe. En France, c'est la deuxième religion. C'est plusieurs millions, plus de 5 millions de personnes. C'est plus un courant, c'est plus une réalité négligeable ou marginale. Ce serait provoquer une situation de guerre civile permanente en Europe.
La première victime d'une action armée, ce n'est pas le dictateur lui-même, c'est pas lui qui va être concerné, c'est essentiellement le pays en lui-même et la population.
Depuis plusieurs mois, les États-Unis veulent lancer une guerre contre l'Irak, tout le monde le sait. Néanmoins, ça fait plus de 10 ans depuis la fin de la première guerre du Golfe que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont multiplié les bombardements aériens sur certaines zones irakiennes. Pour ce probable et futur conflit contre Bagdad, Washington tente d'utiliser diverses argumentations. Pour de nombreux juristes de droit international, cette attaque états-unienne constitue un danger pour les relations internationales. Réunis en janvier dernier à Bruxelles, de nombreux juristes internationaux ont lancé un appel concernant le recours à la force contre l'Irak. Pierre Klein, du Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles, est l'un des instigateurs de cet appel.
L'usage de la force depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies est interdit dans les relations internationales, à deux exceptions près. La première, c'est une exception classique, c'est la légitime défense. Lorsqu'un État est agressé par un autre État, il peut recourir à la force pour se défendre. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le système de sécurité collective, qui a été mis en place dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et qui donne au Conseil de sécurité le pouvoir de décider d'utiliser lui-même ou d'autoriser les États à recourir à la force lorsqu'ils estiment que la paix et la sécurité internationale sont menacées. En dehors de ces deux hypothèses-là, effectivement, un recours unilatéral à la force est considéré comme un crime.
Mais est-ce qu'on n'est pas dans ce deuxième cas de figure, précisément, où le Conseil de sécurité décide qu'il y a menace sur la paix mondiale et décide de partir en guerre ?
Alors, les deux étapes sont fondamentales. Il faut que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une telle menace et qu'ensuite, en guise de réaction à cette menace, il autorise les États à recourir à la force. L'un n'implique pas forcément l'autre. En d'autres termes, le Conseil de sécurité peut très bien considérer que dans une situation précise, il existe une menace et décider que la façon d'y répondre est, par exemple, de prendre un certain nombre de mesures économiques, d'imposer un embargo sur les armes, etc., etc. Donc le recours à la force n'est certainement pas la solution qui s'impose de façon exclusive au Conseil pour réagir à un tel constat de menace. Donc, s'il faut bien que le Conseil constate l'existence d'une menace, c'est un passage obligé, effectivement, pour qu'après cela, il autorise le recours à la force. Certainement, ce constat de menace ne suffit pas en soi à dire que le recours à la force est permis. Alors, en ce qui concerne la situation irakienne, pour y venir plus précisément, le Conseil de sécurité a considéré, et il l'a rappelé de façon très claire dans la résolution 1441, que la situation de l'Irak constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale en raison de la suspicion qui existait quant au programme d'armes de destruction massive, etc. Donc le constat est bien opéré. La manière dont le Conseil de sécurité a choisi de traiter cette menace à l'heure actuelle, c'est par le biais des inspections qui sont menées. Et donc, c'est la réponse que le Conseil a estimée appropriée par rapport à la situation actuelle. La résolution 1441 ne contient absolument pas en elle-même une autorisation quelconque de recourir à la force, et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, on assiste à autant de débats sur la nécessité, l'opportunité, la date à laquelle éventuellement une deuxième résolution qui autoriserait de façon claire et explicite, cette fois-ci le recours à la force, devrait être adoptée.
Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de crime ?
À ce moment-là, certainement pas. On se trouverait certainement dans le cadre de la légalité internationale, puisque un tel recours à la force serait autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça ne veut pas dire que pour autant tous les problèmes seraient réglés. Ils le seraient certainement en termes de légalité. Pour autant, c'est quand même une réserve importante que le Conseil de sécurité place bien sa décision dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Ses pouvoirs sont importants dans ce cadre-là, mais ils ne sont certainement pas illimités. Donc il doit justifier, motiver sa décision en droit, je le dirais, et il ne peut pas le faire de façon tout à fait arbitraire, mais on peut penser qu'ici, une telle motivation pourrait être apportée de façon plus ou moins convaincante. Alors ça règle le problème en termes de légalité, ça ne le règle pas forcément en termes de légitimité. C'est pas parce que, effectivement, le Conseil de sécurité prend une décision dans tel ou tel sens que, d'office, il faut conclure au bien fondé sur un plan plus large, cette fois-ci non strictement juridique, mais également politique, stratégique, voire économique, de la décision en cause.
Mais on suppose bien que le Conseil de sécurité veillera à ne pas violer la lettre de la charte.
Oui, ça, il y a de très fortes chances, en effet, que la motivation qui sera apportée à sa décision et le fait qu'il s'inscrive clairement dans la logique de la sécurité collective, ce sera une préoccupation qui sera rencontrée en l'espèce.
Si jamais cette nouvelle résolution n'est pas votée, il y en a beaucoup qui pensent que ce serait un discrédit pour les Nations Unies. Or, on pourrait aussi voir les choses autrement. Si les États-Unis vont seuls et que les Nations Unies, justement, s'abstiennent de donner leur aval à cette guerre, est-ce qu'au contraire, ça n'éviterait pas de la discréditer ? C'est-à-dire que, est-ce qu'en autorisant une guerre, les Nations Unies, justement, ne se discréditeraient pas plus que si les États-Unis les laissaient de côté ?
C'est un débat qui est difficile. Il est clair que si, face à une situation qui requérait clairement une action internationale et une action, disons, musclée, militaire en l'occurrence, le Conseil de sécurité n'était pas en mesure de prendre ses responsabilités, effectivement, on pourrait parler de risque de discrédit à cet égard-là. On a souvent évoqué cette situation dans le passé, par exemple, à propos de la situation en Yougoslavie ou au Rwanda. Par contre, ici, évidemment, la question fondamentale qui se pose, c'est celle de la nécessité de cette opération militaire pour faire face à la situation à laquelle on est confronté. Et à partir du moment où cette nécessité n'est pas établie, ce que pensent beaucoup de gens à l'heure actuelle, effectivement, le discrédit serait plutôt d'accorder un aval à une opération militaire dont la nécessité ne paraît pas établie.
Et aussi, il y a une fuite sur un rapport interne des Nations Unies qui admet que les Nations Unies estiment elles-mêmes à 500 000 le nombre des victimes civiles potentielles.
Bien entendu, et ça c'est une dimension qui est fondamentale. Ça nous ramène sans doute à une des questions qu'on évoquait un peu plus tôt, qui est le fait qu'on a tendance depuis un certain nombre d'années à penser à aux guerres de façon générale comme à des opérations propres. On a employé cette terminologie-là, de guerre propre, de guerre zéro mort, etc. etc. Alors c'est sans doute vrai pour ceux qui lancent des bombes depuis des hautes sphères de l'altitude. C'est beaucoup moins vrai pour les populations, évidemment, qui se trouvent en dessous, et on oublie que les dommages causés par la guerre et les drames énormes que cela engendre, eh bien, ne sont pas de nature très différente maintenant avec des armes dites propres qu'il y a un siècle ou deux.
Alors, j'aimerais en venir à d'autres points plus précis du droit international. Par exemple, je crois que vous en parlez aussi dans l'appel, ça fait depuis grosso modo 1991 que les États-Unis et l'Angleterre bombardent unilatéralement l'Irak sur des zones d'exclusion qui ne sont pas reconnues par les Nations Unies. Or, il existe, comme vous le disiez, en droit international, le concept de légitime défense. Est-ce qu'on peut considérer que, en l'espèce, l'Irak est en situation de légitime défense?
C'est tout à fait possible de l'affirmer, effectivement, puisque ces situations ou ces actions militaires sont menées de façon unilatérale et sans mandat par les États-Unis et par le Royaume-Uni. Dès lors, à partir du moment où on peut estimer que leur ampleur est telle que cela correspond à un acte d'agression, effectivement, on pourrait justifier, ou l'Irak pourrait justifier, un recours à la force visant à repousser cet acte d'agression. Il ne s'agit évidemment pas de justifier, par exemple, un bombardement du territoire des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais effectivement des opérations ou des actions militaires menées contre les incursions aériennes, par exemple, serait tout à fait justifié au titre de la légitime défense.
Parce que j'aimerais que vous réagissiez à certaines déclarations de Louis Michel dans une interview dans le journal du mardi cette semaine. La question, c'est donc du journal du mardi. Depuis des années, les États-Unis et la Grande-Bretagne bombardent l'Irak toutes les semaines. S'il fallait être légaliste, à mon avis, c'est pas tort d'être légaliste, ne faudrait-il pas considérer que l'Irak est lui aussi en état de légitime défense? Et la réponse de Louis Michel, c'est: n'oublions pas que Saddam Hussein est un dictateur. Parler de légitime défense pour un dictateur, c'est ridicule. Comment interpréter les mots du ministre des Affaires étrangères?
Bien, ils sont bien entendu difficiles à réconcilier avec un cadre juridique tel que celui que je vous ai exposé. La réaction de M. Michel s'explique sans doute par une perception politique de cette situation, mais il est clair qu'en droit, la légitime défense est reconnue à l'État qui fait l'objet d'une action militaire que l'on peut assimiler à une agression, quelle que soit la nature et le régime de cet État en cause. Donc cette question-là est en l'occurrence totalement indifférente.
Une comparaison peut-être un peu osé, mais dire pas de légitime défense pour les dictateurs, ce serait pas comme dire dans un état de droit pas d'avocat pour un assassin, par exemple.
Ce n'est pas très loin de ce genre de conception, en effet, et je dirais que ici la chose est d'autant plus malheureuse sans doute que la première victime d'une action armée, ce n'est pas le dictateur lui-même, c'est pas lui qui va être concerné, c'est essentiellement le pays en lui-même et la population. Alors ça veut dire que ce pays n'aurait pas le droit à se maintenir et à défendre son intégrité simplement du fait qu'il est soumis à une dictature, ça paraîtrait quand même un petit peu problématique et difficile à mettre en œuvre. D'autant qu'on peut douter évidemment que ce discours, une fois encore, soit tenu avec la même rigueur dans toutes les situations. Il existe beaucoup d'autres États, entre autres dans cette région-là précisément, qui ne sont pas particulièrement des modèles de démocratie. Je pense à un exemple classique qui est celui de l'Arabie Saoudite. Je peux vous assurer que si l'Arabie Saoudite fait l'objet d'une attaque armée de la part d'un État quelconque demain, il n'y aura pas beaucoup de voix dans le monde occidental, en tout cas, qui va s'élever pour dire que l'Arabie Saoudite n'aura pas le droit d'exercer la légitime défense sous prétexte qu'il est soumis à un régime féodal théocratique.
Dans le même ordre d'idée, que penser de la différence, est-ce qu'elle existe d'abord, dans le non-respect des résolutions des Nations Unies, d'un côté par Israël et de l'autre côté par l'Irak? Parce que justement, on en parlait aussi dans l'interview du journal du mardi, et là, Louis Michel dit « L'Irak a discrédité les Nations Unies avec cependant la particularité que c'est une dictature. Israël aussi a discrédité les Nations Unies, mais que vous pensiez qu'Israël exagère ou pas, ce n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Quand une démocratie qui détient des armes de destruction massive quand c'est une démocratie, pardon, qui détient des armes de destruction massive, c'est tout de même moins inquiétant que lorsque c'est une dictature, objectivement. Bon, en plus, il détourne la question sur les armes de destruction massive, mais sur le respect des résolutions des Nations Unies. On retrouve aussi cette même notion dans la lettre, la fameuse lettre des 8 chefs d'État pour de lettre de soutien aux États-Unis. Ils disent vers la fin, nous ne pourrons pas supporter qu'une dictature viole systématiquement les résolutions des Nations Unies. Mais est-ce qu'on peut supporter qu'une démocratie les viole systématiquement ?
Certainement pas, et c'est peut-être même plus choquant encore, puisque la dictature, dans une large mesure, c'est la négation du droit, de l'état de droit, etc., etc. La démocratie est censée être fondée sur le respect de ces règles-là. Et dès lors, on peut évidemment s'interroger très sérieusement sur le fait de savoir si c'est plus justifiable, entre guillemets, d'admettre des violations répétées et systématiques d'un certain nombre d'obligations internationales, en particulier de celles qui découlent des résolutions des Nations Unies par un État comme Israël, sous prétexte qu'il est démocratique, plutôt que d'exprimer des réserves ou de distinguer radicalement cette situation-là de celle d'États qui sont soumis à des dictatures. C'est une différence qui paraît assez difficile de nouveau à justifier en droit.
Et alors, cette différence dans le non-respect des résolutions, Louis-Michel dit que c'est vraiment très complexe et que c'est une complexité qui est presque impossible à expliquer aux opinions publiques. Est-ce que ce n'est pas une complexité qu'il invente, lui, de toutes pièces pour justement essayer de lever un rideau de fumée ?
Il est clair que la situation du Proche-Orient est une situation extrêmement complexe, que le problème israélo-palestinien est un problème extrêmement complexe, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse en effet dire la même chose des résolutions elles-mêmes. Lorsqu'on regarde les injonctions qui sont données à l'une ou à l'autre, ou aux deux parties, dans le cadre du conflit israélo-arabe, et on se rend compte que ce sont des injonctions qui sont extrêmement claires. Lorsque l'on prévoit qu'il faut respecter, par exemple, la 4e convention de Genève à l'égard des populations civiles des territoires occupés par Israël, on ne voit pas très bien en quoi il s'agit d'un énoncé qui serait particulièrement complexe.
Mmh. Pour terminer, pour en revenir aussi à l'appel que vous avez lancé avec de nombreux signataires, vous plaignez au départ de peu de retentissement dans les médias pour le droit international. Est-ce que cet appel a changé quelque chose ? Est-ce que vous avez eu un écho ?
C'est difficile à apprécier. Je crois que pour ce qui concerne la Belgique, en tout cas, c'est un appel qui a été porté à la connaissance des pouvoirs politiques, des partis, des ministres qui sont principalement concernés par ces questions au sein du gouvernement. Et je pense qu'un certain nombre de prises de position qui ont été adoptées par ces ministres, y compris d'ailleurs par M. Michel lui-même sur la scène internationale au cours des dernières semaines, montrent que ce soit maintenant en raison de l'appel lui-même ou bien pas, mais montre en tout cas que les considérations de droit international sont loin d'être ignorées dans ces discours actuels. Et c'est sans doute la même chose dans d'autres cercles également, où l'appel a été diffusé. Nous l'avons entre autres envoyé à tous les membres actuels du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de leur rappeler que ces considérations-là devraient éclairer leur débat sur la question irakienne.
Pierre Klein du Centre de droit international de l'ULB répondait aux questions d'Olivier Témence.
On va pas vraiment voir la guerre dans les médias américains, on va voir la guerre à travers les appareils de la presse étrangère.
Il y a toujours deux fronts dans une guerre, le front sur le terrain et le front médiatique. Jamais aux États-Unis, les médias ne se sont montrés tellement va-t-en-guerre. La presse écrite, les radios et les télévisions d'information en continu ne cessent de multiplier les émissions belliqueuses. La presse américaine critique tous les opposants ainsi que les pays réfractaires à ce conflit. Les médias américains et l'administration Bush marchent main dans la main en direction du champ de bataille. Face à cette manipulation, cette censure et cette propagande permanente, de nombreux journalistes tentent d'ouvrir néanmoins les yeux à l'opinion publique des États-Unis. C'est le cas de John MacArthur, le rédacteur en chef du magazine new-yorkais Harper's Magazine. MacArthur est également l'auteur du livre « Censure et propagande dans la guerre du Golfe ». C'est lui qui avait dénoncé la fausse affaire des bébés koweïtiens tués par les soldats irakiens, une manipulation qui avait fait plier l'opinion publique dans le déclenchement de la première guerre du Golfe. John MacArthur.
Les médias sont tout à fait... ils ont fait une alliance avec le gouvernement depuis le 11 septembre. J'ai l'impression que... j'ai écrit tout un livre sur ce sujet, sur la première guerre du Golfe. Et en général, on peut dire que les journalistes américains sont très, très conscients de leur rôle à côté du gouvernement. Ils se sentent vraiment... il s'inscrit dans la campagne propagandiste parce qu'ils ont peur de donner l'impression qu'ils sont contre la guerre, qu'ils ne sont pas patriotiques, qu'ils ne sont pas vraiment sur l'équipe, qu'ils ne font pas partie de l'équipe, et qu'ils risquent d'aliéner leurs auditeurs ou leurs lecteurs. Mais c'est pire après le 11 septembre, parce que là, vous voyez, les deux grands centres médiatiques ont été ciblés par Bin Laden, New York et Washington. Alors, les journalistes de New York et Washington, qui gèrent les médias nationaux, ont eu très, très peur. Ils se sentaient vraiment ciblés par personnellement. Et à cause de cette peur et de cette menace terroriste, ils étaient même plus dévoués à la cause du gouvernement. Ils étaient même plus confortables avec le pouvoir, parce que là, on se sentait vraiment alliés avec les forces de la police, le militaire, etc. Mais bien que je suis tout à fait cynique envers les médias et que je fais des critiques sans arrêt contre mes collègues, éventuellement, on va voir que la guerre contre le terrorisme et que la propagande qui soutient cette guerre, parce que il y a toujours un deuxième front dans toute guerre, et ce front propagandiste, et éventuellement les médias américains vont comprendre, comme ils ont compris pendant la guerre du Vietnam, qu'il y a des mensonges parmi les vérités, qu'il y a des demi-vérités dites par le département de défense, par la Maison Blanche, et que de vraiment lutter contre le terrorisme, c'est beaucoup plus difficile que simplement d'attaquer l'Irak et de jouer le rôle du néocolonialisme. Parce que ce dont on parle maintenant, c'est une politique de néocolonialisme qui est très, très dangereuse. Notre pays n'a jamais eu cette tradition comme les Français, comme les Belges, comme les Anglais. On se connaît pas on connaît pas les pays étrangers, on ne connaît pas les Arabes, on connaît pas la culture musulmane, on n'est pas très doué en politique étrangère. Alors après la première célébration, parce que je ne doute pas que Saddam va tomber très, très rapidement. Mais après tout ça, et après que les drapeaux sont mis devant les appareils, devant les caméras pour les réseaux de télévision, parce qu'on va, je vous assure, on va voir des Irakiens qui vont secouer, qui vont montrer l'étendard américain, qui vont prétendre qu'ils sont ravis de voir les soldats à Bagdad. En 2 mois, 3 mois, 4 mois après que les terroristes commencent à faire sauter des casernes américaines, ça va changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Les Français, les Britanniques ont bien compris après 100 ans, 150 ans, qu'il n'était pas possible de maîtriser toute une culture, toute une religion, qu'il fallait éventuellement se retirer. Alors je suis cynique et je peux dire que je suis carrément dégoûté des médias américains en ce moment, parce qu'ils sont trop, ils sont lâches, ils acceptent trop les paroles du gouvernement. Mais ça ne peut pas rester ainsi.
Concernant la couverture aussi actuelle de cette possible guerre, de cette éventuelle intervention, qu'en est-elle actuellement ?
Ben, je prévois une guerre très courte. Je crois que Saddam va tomber très, très rapidement, parce qu'il n'a pas la force militaire pour vraiment résister aux forces américaines. Mais il est possible que Al Jazeera, le réseau arabe, va pouvoir diffuser des images de sang et de mort qui vont choquer les Américains. Je ne compte pas sur les médias américains pour faire ce boulot, parce que depuis la guerre, l'invasion de Grenada en 84, il y a la censure vraiment presque complète sur les médias en ce qui concerne les guerres. Et les médias l'ont accepté, malheureusement. Mais il y aura beaucoup de journalistes étrangers en Irak. Il y aura les Britanniques, les Français, les Arabes. Et on va faire diffuser éventuellement, je crois, je l'espère, des images qui montreront la vraie guerre. Mais disons que la guerre dure 5 jours ou 6 jours, etc. On ne va pas pouvoir éviter les images des casernes bombardées par les terroristes. Et je suis absolument certain qu'on va subir une situation similaire qu'au Liban en 82, où le Hezbollah a fait sauter une caserne des marines. Ils ont tué plus de 200 soldats. Et Reagan, le féroce, le cowboy, a tout de suite reculé, tout de suite retiré tous les forces américaines du Liban. Parce qu'on savait bien qu'on ne pouvait simplement, comme éventuellement les Israéliens vont comprendre, on ne peut pas maîtriser toute une population enragée contre vous, contre une occupation. Alors là, les images vont rentrer dans les cerveaux américains. On va voir des morts, et on va voir nos soldats morts. Il y aura des centaines, pas des milliers, mais il y aura des centaines. Il y aura des centaines tous les 3 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, et ça va faire un effet cumulatif. Et il faut regarder l'éventualité d'une occupation, pas simplement la guerre. Qui sera sans doute censuré. Ça sera vraiment difficile de comprendre on va pas vraiment voir la guerre dans les médias américains. On va voir la guerre à travers les appareils de la presse étrangère. Mais et en dit ça, je peux dire que éventuellement les journalistes américains vont voir d'autres choses qui vont vraiment ennuyer les Américains, la population américaine.
Vous écoutiez à l'instant John MacArthur du Harper's Magazine. Cette spéciale Irak de Carrefour du Monde touche malheureusement à sa fin. Pour la terminer, je vous propose néanmoins d'écouter cette version très particulière du discours à la nation de George W. Bush.
During these last few months, I've been trained by Al-Qaeda, and I'm weak and materialistic. I told our country and I told the world, if it feels good, do it. I hope you'll join me in expressing fear and selfishness. We will embrace tyranny and death as a cause and a creed. We can be summed up in one word: evil. Committed to defeating not only the good work of charities, but the values that will bring lasting peace. And we have a great opportunity during this time of war to lead the world towards suicide and murder.
Let's roll.
Voilà, c'est sur cette petite note d'humour que Carrefour du Monde s'achève. Merci à Clarisse Serigna pour la réalisation de cette spéciale Irak. Merci également à André-Michel Essungu et à Emmanuel Stels, ainsi qu'à Olivier Témence d'Alter Echo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en archives sur le site carrefourdumonde.org, Carrefour du Monde en un mot. Rendez-vous lundi à 10h sur CISM 89.3 FM à Montréal. À la prochaine, ciao.